Europe 1. Europe 1, 22h, 1h.
La libre antenne. Roland Pérez.
Dans cette libre antenne, dans cet espace, cette bulle de bienveillance, cette bulle d'écoute qui n'est que pour vous. Vous savez que vous pouvez nous appeler jusqu'à 1h du matin au 01 80 20 39 21, le numéro que vous allez joindre est non surtaxé. Et puis vous pouvez également nous joindre par SMS comme l'a fait Nicole, que nous allons prendre là sur l'antenne, au 7 39 21. Vous précédez votre message du mot nuit. Vous pouvez également nous joindre sur libreantenne@europe1.fr. Alors, juste avant le flash de Maëlle Hassani, nous étions avec trois personnes. C'est un peu anachronique, mais nous étions en ligne au départ avec Gaëtan, qui est toujours là. Et Gaëtan, qui est 24 ans, qui sollicitait aujourd'hui notre aide. Alors, vous le connaissez bien, les auditeurs de la Libre Antenne le connaissent bien. Il intervient très régulièrement avec Olivier Delacroix. Et Gaëtan, aujourd'hui, sollicitait notre aide car il doit remplir un dossier avec une lettre de motivation bien circonstanciée pour obtenir une bourse pour réaliser son rêve qui est de travailler dans l'audiovisuel. Il a en ligne de mire un BTS qu'il doit obtenir. Nous avons fait intervenir Nicole, que je vais reprendre également en ligne tout de suite, qui est une véritable fan de Gaëtan. Elle s'est proposée à la fois de l'aider, de discuter avec lui, d'échanger avec lui. Donc on va les mettre en relation et on donnera le numéro de Nicole à Gaëtan. Et puis nous avons fait également intervenir Pierre qui est aussi autiste et qui va réagir, lui. Il va nous raconter un petit peu ce qu'il souhaite vous confier. Il va nous raconter tout à l'heure, mais je souhaitais également mettre en relation Pierre et Gaëtan, puisque Gaëtan disait aussi qu'il avait du mal à se faire des amis et avoir des relations avec des gens de son âge. Et juste avant le flash de 23h, Nicole, à qui je disais au revoir, voulait me parler. Voilà, Nicole, la ligne est à vous, l'antenne est à vous.
Je voulais vous parler, oui, parce que moi je vous connais, bon, pas en vrai, je vous connais par la télé, je vous connais par les quand vous passez à la radio aussi, vous écoutez les gens, bon, avec le métier que vous avez, c'est sûr, vous êtes obligé d'écouter les gens.
C'est un plaisir d'écouter les gens, oui.
Ben oui, mais moi aussi. Bon, moi, c'est pas sur la même façon que vous. Moi, j'écoute les gens parce que on m'écoute quand je peux tomber sur des gens comme ça. Vous pourriez donner mon numéro à Pierre aussi, parce qu'il est d'Angoulême, je crois, vous m'avez bien entendu.
Pierre est d'Angoulême, absolument. Oui, oui.
Et ben, si Pierre le souhaite. Et moi, je suis pas loin, je suis à 30 km d'Angoulême.
D'accord. Et ben, voilà. On donnera votre. Vous allez devenir la maman, la mamie de tous nos jeunes auditeurs.
Oui. Ben, ça va me changer, tiens. C'est une bonne
idée. Bah écoutez, voilà, on va donner votre numéro. Et en tout cas, c'était très gentil à vous d'intervenir. Vous avez une voix, une gouaille. Ah bon, voilà, vous avez beaucoup de bonne humeur et ça fait plaisir. Et c'est bien que vous puissiez la communiquer.
On en a besoin parce que je vois que les gens ici, ils ont, je sais pas pourquoi. Je ne dis pas que c'est le Charentais qui est comme ça. Je suis là depuis 15 ans. Ils ont pas le sourire, ils sont pas agréables. Je sais pas pourquoi les gens sont comme ça. À Paris, je peux comprendre, mais les gens, ils courent pas ici.
Mais vous savez, à partir du moment où vous l'avez, vous désarmez parfois les gens par votre bonne humeur et par votre spontanéité. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut être, et il faut rester, surtout ne pas s'adapter ou ne pas prendre l'attitude des autres si elle ne vous convient pas. Votre attitude à vous, qui est d'être ouverte et d'écouter les autres, c'est certainement la bonne attitude. Merci en tout cas, sincèrement, Nicole,
d'être intervenue. Deux secondes, et je vous laisse. Oui. Deux secondes. Moi, je vais danser, c'est pareil. Quand je vais danser, les gens me voient. les gens, je pense qu'il y a une jalousie là-dedans entre les hommes et les femmes, je comprends pas, mais moi j'aime parler et les gens n'aiment pas ça.
Aimez danser aussi apparemment.
Ah, j'adore. Si vous savez danser, on pourrait aller danser ensemble.
Bah, écoutez, pourquoi pas. Je vais garder également votre numéro. Bah, dis-moi, Pierre, Gaëtan, Roland, bah, dites-moi. Hein. Vous allez, vous allez avoir un carnet de balles bien rempli.
Bientôt, oui, je crois.
Merci Nicole, votre gentillesse et votre spontanéité. Merci d'être intervenue.
Bonne soirée à tous les trois et bonne soirée à vous.
Merci.
Au revoir.
Gaëtan ?
Oui.
Pierre, vous êtes toujours avec moi ?
Oui.
Bon, alors Pierre, je disais tout à l'heure à Gaëtan qu'on l'avait aidé à préparer, c'est la raison pour laquelle il nous avait appelé, à l'aider à préparer sa lettre de motivation, lui donner voilà les bons ingrédients pour que ça puisse donner envie à la commission de lui allouer cette bourse qui est nécessaire aujourd'hui pour lui pour pouvoir entreprendre des études de BTS. Vous avez déjà été vous-même, Pierre, confronté à ce type de demande, à des dossiers à préparer?
Oui, à rédiger des lettres de motivation, ça fait des années que j'ai eu cette expérience.
Ah, bah très bien. Donc, vous pourriez aussi être en relation avec Gaëtan et l'aider à faire. Moi, j'ai essayé très modestement. Je lui ai dit un certain nombre de choses qu'il va, il va peut-être probablement les coucher sur papier et nous les envoyer. Mais peut-être que vous pourriez aussi ensemble, si vous en êtes d'accord, hein, Pierre, aider Gaëtan.
Je pourrais sans doute lui montrer à mon ancien modèle, enfin que j'avais gardé depuis des décennies, dès l'instant où j'ai fait par exemple un stage dans une boîte de communication visuelle à l'époque où j'ai fait mon stage à Lyon pendant 3 mois.
D'accord, très bien. Et vous aviez fait une lettre de motivation pour obtenir ce stage? Oui, Pierre, je disais que vous aviez fait cette lettre de motivation pour obtenir ce stage.
Oui, et après, au fur et à mesure que j'ai... réactualiser mes études dans le cinéma d'animation, ben je me suis mis à rédiger la lettre de motivation avec de nouveaux modèles donc proposés par les nouvelles écoles que j'avais fréquentées autrefois.
Eh bien, très bien. Vous pourriez donc évidemment aider Gaëtan. Après, moi, je disais à Gaëtan qu'il fallait aussi qu'il se montre tel qu'il était, avec ses imperfections, dire qu'il craignait justement que ses imperfections, notamment de rédaction, de présentation, puissent lui nuire pour obtenir cette bourse qui est essentielle. J'ai dit qu'il ne fallait pas hésiter aussi à jouer la carte de la sincérité et de la franchise, parce que ça plaît aussi, ça donne un peu d'émotion et ça personnalise aussi les dossiers et évidemment les intentions et les lettres de motivation. Mais c'est une très bonne nouvelle, Pierre. Si vous permettez qu'on donne vos coordonnées à Gaëtan.
Vous avez le feu vert.
Bon, eh bien, écoutez, voilà. Raphaël qui nous écoute, qui est aujourd'hui celui qui officie à la Libre Antenne et qui vous écoute, je le remercie d'ailleurs, c'est lui qui a pris vos appels tout à l'heure. Eh bien, Raphaël va donner à Gaëtan. Gaëtan, vous nous écoutez toujours? Vous êtes avec nous?
Oui, je suis toujours avec vous, oui.
Bon, super Gaëtan, vous voyez qu'il y a plein de bonnes volontés pour vous. Donc, moi, ma proposition, elle tient toujours. Donc, je peux parfaitement regarder la lettre que vous aurez préparée et si vous me l'adressez sur libreantenne@europe1.fr. Et puis surtout, vous pourriez ensuite dialoguer avec Pierre. Vous allez pouvoir échanger vos numéros grâce à Raphaël. Vous êtes d'accord, Gaëtan?
Oui, je suis d'accord. Oui, ça pourrait toujours être bien, oui.
Bon, eh bien, écoutez, on fait comme ça, Gaëtan. Vous intervenez, moi je suis là jusqu'à jeudi. Vous pouvez intervenir évidemment à tout moment. Vous êtes un peu la vedette de la Libre Antenne, Gaëtan, si j'ai bien compris. Donc, vous pouvez intervenir à tout moment si vous le souhaitez. Et puis demain, si je reçois cette lettre, je vous promets de vous la renvoyer avec mes suggestions. D'accord, Gaëtan?
D'accord, et bien merci beaucoup, Roland.
Merci en tout cas de votre appel. Hein. C'était très agréable de parler avec vous. Et puis, vous avez gagné une petite grand-mère en la personne de Nicole. Donc, vous allez repartir avec un autre numéro de téléphone. Je crains qu'elle vous emmène...
Avec deux autres numéros, oui.
Je crains qu'elle vous emmène danser. Faites attention à vous, Gaëtan.
Oui, je vais rester sur mes gardes. Il n'y a pas de souci.
Voilà, en toute amitié. Merci, Gaëtan. Et puis, Pierre, on vous retrouve. Vous restez avec moi. On va écouter un peu de musique et puis vous restez avec moi et je vous reprends parce que vous nous avez appelé aussi pour vous confier, pour nous demander et pour nous dire quelque chose. À tout de suite. Allez, on retrouve Michel Polnareff avec Radio. éponyme radio. On est de nouveau avec Pierre. Je suis resté avec Pierre, puisque nous étions tout à l'heure avec Gaëtan et Nicole. Et Pierre nous a appelé, car je crois que vous souhaitez réagir, Pierre, au regard d'un reportage de Zone Interdite qui a été diffusé sur M6 dimanche dernier sur le handicap. On vous écoute, Pierre.
Oui. Alors, tout a commencé lors d'un débat qui s'est produit mercredi dernier au siège de M6. C'était, ça se déroulait dans la soirée vers 18h. C'était ouvert par la présentatrice elle-même, Ophélie Meunier. À la fin de l'avant-première de ce reportage, nous avons eu droit à un débat avec la ministre du Handicap actuelle. Et je dois vous dire que malheureusement, le débat s'est avéré houleux, avec une vive opposition, avec des personnes qui sont, on va dire, des partisans de la désinstitutionnalisation sous les recommandations de l'ONU et du Conseil de l'Europe, et des personnes qui veulent maintenir à tout prix les structures qu'on appelle des centres médico-sociaux. Et dans le cas de ce qui a été présenté dans ce reportage, ce sont des IME.
D'accord, oui. Qu'est-ce que vous appelez des IME ?
Les IME sont des instituts médicaux éducatifs, de manière simple.
D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce que... c'est Fatila Katabi qui était là ?
Oui, c'est exact, c'est elle.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous lui reprochez sur son propos à Madame Katabi ?
Alors, ce que je lui reproche, c'est très simple, c'est de chercher à mettre les IME dans des écoles de la République, ce dont je m'y oppose personnellement et formellement.
Expliquez-nous pourquoi, c'est intéressant. Expliquez-nous pourquoi.
Parce que les IME, tout comme ce qu'on appelle pour le reste des centres médico-sociaux, aux yeux de l'ONU et du Conseil de l'Europe, c'est malheureusement considéré comme des lieux de privation de liberté, des lieux... de violence contre les personnes en situation de handicap, et pour cause. J'ai sous mes yeux un document officiel de l'ONU qui date du 10 octobre 2022 qui parle des lignes directrices de la désinstitutionnalisation. Alors, rien que de placer les personnes dans des centres médico-sociaux, donc à savoir les IME, eh ben, c'est déjà constitué comme une violation sur trois articles. L'article 5 pour commencer, ensuite l'article 12 qui met en danger la capacité juridique de la personne concernée par le handicap, ensuite l'article 14 qui stipule que ce genre de centre est un lieu de détention et de privation de liberté.
D'accord, mais alors, si je me trompe, vous allez peut-être me rectifier, mais les instituts médico-éducatifs sont normalement des établissements qui accueillent des enfants et des adolescents qui sont en situation de handicap mental, non ? Pas que mental ?
Alors, qui sont... je dirais le handicap de manière un peu plus large, mais oui, ça accueille en particulier les enfants et les adolescents, puisque de manière officielle, ça accueille jusqu'à l'âge de 16 ou de 18 ans.
De 3 à 20 ans, oui, j'ai vu.
Oui.
Mais c'est bon, des adolescents ou des jeunes personnes qui ne sont pas en situation de discernement.
Discernement, je dirais que c'est un peu plus compliqué à décrire, puisque il faut bien se rappeler que pour chaque individu, il y a une évolution individualisée. Par conséquent, il est presque impossible d'établir un modèle, de développement universel pour tous les cas.
D'accord. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposeriez, vous, alors, peut-être ?
Que je propose à la place, ce que recommandent l'ONU et le Conseil de l'Europe une fois de plus, il s'agit des milieux dans un centre, un centre dans un milieu ambulatoire, à commencer par ce qui s'appelle des centres communautaires. Et ça tombe bien, je fais partie des personnes qui ont mis en place ce genre de structure.
Alors comment se passe l'accueil justement ? Vous me dites c'est ambulatoire, c'est donc en journée ?
Alors, quand je parle de milieu ambulatoire, je parle notamment du service qui permet à la personne d'être directement en milieu communautaire et donc directement dans un lieu de vie, dans la société elle-même.
Ça se pratique, ça se fait comment en pratique alors, pour qu'on comprenne bien ?
De manière pratique,
Donnez-nous des exemples pour qu'on comprenne bien.
Je vais citer un exemple très clair. Enfin, ça parle notamment des schizophrènes et des bipolaires. Il s'agit de la Maison Perchée qui se trouve à Paris.
Oui.
La Maison Perchée, c'est un centre communautaire qui justement est fortement recommandé par les institutions internationales, parce que à l'intérieur de cette maison, eh bien, ce sont les schizophrènes et les bipolaires qui prennent en charge et qui supervisent eux-mêmes cette structure. Ils proposent des ateliers de manière gratuite sur la pérédance.
Vous voulez dire que ceux qui accueillent, ceux qui sont dans la même situation, ce sont des gens qui, à la fois, sont accueillants et accueillis?
Tout à fait.
Et vous pensez que c'est une bonne solution pour pouvoir mieux intégrer les personnes qui souffrent de troubles? C'est, vous pensez, aujourd'hui la solution idoine?
Bah, disons que c'est la solution qui a apporté le plus de résultats positifs, je précise. Parmi les schizophrènes qui ont fait appel à ce genre de service de pérédance, justement, environ 30% des schizophrènes, voire plus, ont réussi à se rétablir et à s'intégrer pleinement dans la société en 5 ans. D'après les données qui ont été transmises par des services du docteur Vincent Girard, qui est basé dans la région de PACA, qui est connu pour avoir ouvert un projet qui s'appelle un chez-soi d'abord.
D'accord, mais c'est supervisé quand même par du personnel formé pour cela ou pas?
Ah, mieux que ça, ce sont des schizophrènes et bipolaires eux-mêmes qui gèrent ça.
Oui, mais qui sont eux-mêmes, ils ont acquis une formation, ils ont...
Ils se sont formés eux-mêmes.
Et comment c'est géré? Alors c'est géré, c'est autogéré par des personnes qui ont les mêmes troubles?
Oui, c'est autogéré.
D'accord. Et comment vous avez-vous eu accès à cela? Parce que vous dites que vous êtes à l'origine d'un des centres dont vous parlez là. Pourquoi vous-même, vous avez fréquenté ce centre?
Je n'ai pas réellement fréquenté ce centre, mais j'ai appris l'existence de ce centre par l'intermédiaire des personnes de mon réseau, notamment des personnes qui mettent en valeur la psychiatrie communautaire. Pas seulement les schizophrènes et les autres neurodivergents, mais aussi des psychiatres qui veulent mettre en place l'innovation en santé mentale.
Et la psychiatrie communautaire, comme vous l'appelez, est aujourd'hui reconnue officiellement en France?
Elle est reconnue par l'OMS notamment.
D'accord. Et nos services de santé, notre ministère de santé, l'autorité également de santé ne reconnaissent pas ce type de psychiatrie communautaire?
Pour un petit retour des choses, il faut savoir que l'autorité en matière de recommandation de bonne pratique de l'OMS est supérieure à l'autorité de la HAS. Et pour cause, il faut se rappeler que la France est membre de l'ONU et que, de ce fait, elle a ratifié la Convention internationale aux droits des personnes handicapées en 2010. Et ça, c'est un rappel de manière juridique par rapport à l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958.
Pourquoi vous n'écririez pas Madame Fadila Khattabi pour lui parler de cela?
Bah, disons que sa prise de position m'a fait perdre confiance.
Mais elle n'a pas du tout évoqué ce genre de structure, j'imagine, lors du reportage.
Et j'ai non, pas vu aucunement. Ce reportage. Non, elle n'a aucunement évoqué ce genre de structure dont je viens de d'émettre le nom, puisque ça n'a pas été du tout figuré, en tout cas certainement pas dans le reportage qui a été diffusé sur M6 de Zone Interdite.
Est-ce que l'autorité, est-ce que ces instituts, ces communautés, comme vous le dites vous-même, elles sont aujourd'hui sous la tutelle du ministère de la Santé?
Non, même pas. Et c'est justement là la différence, puisque en fait, ce que dénoncent les partisans de la désinstitutionnalisation de l'ONU, je vais vous dire tout de suite, c'est que en fait, les structures, les centres médico-sociaux font partie de la complexité imposée par le modèle médical du handicap, qui est centré uniquement sur les incapacités du patient, objet de soins pour maintenir un monopole. Sans vouloir accuser, un monopole abusif du ministère de la Santé sur des millions de citoyens.
Écoutez, c'est passionnant. Je vous propose, on va faire une petite virgule là, publicitaire, et je propose de vous reprendre pour qu'on continue de discuter de tout cela, si vous en êtes d'accord, Pierre.
Très bien.
À tout de suite.
En toute confiance, appelez maintenant Roland Pérez au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1.
Et parmi les émissions phares de cette antenne, il y a aussi historiquement vôtre du lundi au vendredi de 15h à 16h sur Europe 1. C'est Stéphane Bern qui est au micro, qui vous fait le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire. Et demain, il va retracer l'histoire de Pompéi, la cité ensevelie. Et je retrouve immédiatement Pierre avec qui nous étions en ligne. Pierre qui s'insurgeait d'un reportage qui a été diffusé de Zone Interdite sur M6 dimanche dernier sur le handicap. Il propose aujourd'hui une nouvelle forme de prise en charge des handicaps. Il nous donnait des exemples d'un centre qui existe, enfin de plusieurs centres d'ailleurs, Pierre, hein, qui existent en France. Et celui que vous connaissez, rappelez-nous le nom de ce centre que vous connaissez.
La Maison Perchée.
Voilà, la Maison Perchée, où ce sont des personnes souffrant de handicap, comme par exemple des schizophrènes, qui prennent en charge d'autres schizophrènes. C'est bien cela, Pierre ?
Oui, d'autant plus que les bipolaires prennent en charge d'autres bipolaires par la pérédance.
Voilà, et Pierre ça, voilà, était mécontent de ce que notre ministre de la Santé n'ait pas évoqué aussi ces structures qui existent, qui sont aujourd'hui, vous le disiez hein, Pierre, qui sont aujourd'hui reconnues par l'OMS et qui semblent, ne sont pas mises en valeur aujourd'hui par notre système de santé et d'être prises en charge.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors aujourd'hui pour que ce soit plus connu, plus développé et mieux organisé, voire même peut-être institué, j'ai envie de dire, par notre système de santé ?
Eh bien, disons que il y a des années, un certain Hugo Riot, qui est aussi un militant autiste très connu, il préconise le budget du handicap qui, si je ne me trompe pas, comporte plus de 50 milliards d'euros. Donc, ce qui est le troisième plus gros budget européen du handicap derrière la Suède et le Danemark. Donc, de manière très simple, il préconise de transférer le budget du handicap provenant du ministère de la Santé au ministère de l'Éducation. Cela impliquerait un fort investissement dans les sciences de l'éducation avec les dernières données dans l'éducation mêlées au principe de la conception universelle de l'apprentissage préconisée par l'ONU même. Et ça, ça a été expliqué dans l'ouvrage de deux auteurs, Stéphane Forgeron et Bachir Kiromi, dont le titre est « Handicap, l'amnésie collective, la France est-elle le pays des droits de l'homme ?» Point d'interrogation.
Oui, vous êtes bien remonté, hein, cher Pierre, et bien documenté aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure qu'il faudrait peut-être prendre langue avec le ministre de la Santé, avec Madame Fadiba Khattabi, qui pourrait peut-être vous écouter et et relayer peut-être cette idée, parce que je suis persuadé qu'elle doit connaître ces centres d'accueil, ces maisons d'accueil.
Ah bah, si seulement c'était vrai.
Vous pensez qu'elle ne les connaît pas ?
Alors, peut-être qu'elle le connaît, mais en tout cas, je vais faire part de mon expérience concernant la gestion d'un autre centre communautaire. Je ne vous ai pas dit son nom. Il s'agit de ce qui s'appelle le Verger de l'Altérité, qui est basé à Tusson, dans le nord de la Charente, à environ 30 minutes de trajet d'Angoulême. Et c'est un autre centre, mais qui, cette fois-ci, est géré par des autistes pour des autistes.
Et c'est aussi une bonne chose.
Eh bien, c'est ce qui sort du lot parmi les centres communautaires, donc encore une fois, recommandé par les organisations internationales.
Dites-moi une chose, qu'en pensent les médecins, psychiatres, psychanalystes spécialisés de ces maladies ? Qu'est-ce qu'ils en pensent de ces centres communautaires, d'autisme pour des autistes ou de troubles de personnes souffrant de troubles bipolaires qui seraient accueillies par d'autres personnes souffrant des mêmes difficultés ? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les médecins ?
Je pense qu'il y a encore malheureusement peu de médecins qui sont au courant de l'existence de ces centres communautaires. Néanmoins, je connais deux psychiatres qui ont déjà de l'influence médiatique. Je vais vous nommer par exemple Hugo Bopp, qui est connu pour avoir ouvert une pétition sur le mésusage des termes des troubles psychiatriques. Et enfin, le docteur David Masson, qui est basé à Nancy.
D'accord. Et eux-mêmes sont favorables à ces centres?
Ils recommandent fortement.
Et eux-mêmes, il y a quand même une présence médicale ou pas du tout dans ces centres?
Ce n'est pas vraiment une présence médicale au sens propre du terme. Et puis, encore une fois, je le dis, il s'agit d'un service en milieu ambulatoire et qui peut devenir complémentaire à des services à domicile pour mettre, par exemple, des infirmiers ou des médecins en libéral pour qu'ils viennent directement à domicile. Si, par exemple, une personne, un neurodivergent ou une autre personne qui manifeste une condition psychique, aurait besoin de rester chez lui.
D'accord. Et est-ce qu'on a déjà des résultats? Est-ce que les personnes qui ont fréquenté ces centres, est-ce qu'on a vu des améliorations de leur état? Est-ce qu'on a des études?
Il y a des études et même des expériences qui ont été menées dans la région de PACA, encore une fois, de la part du service du docteur Vincent Girard, qui nous a démontré l'efficacité, la démonstration à travers des vidéos de l'ARS et de la région même.
D'accord. D'accord, donc ce serait peut-être une bonne chose. En tout cas, je pense, Pierre, que votre message a été entendu. Il était fort intéressant, fort documenté. C'est vrai, je vous avoue que je ne connaissais pas ces centres communautaires. C'est particulièrement oui, intéressant de savoir qu'ils existent et peut-être ceux qui souffrent de troubles, comme ceux que vous avez évoqués, de bipolarité, de schizophrénie ou autre, eh bien, c'est peut-être une des solutions d'être dans d'autres milieux que les milieux habituels médicaux, qui ne sont pas forcément toujours les plus appropriés. Donc, votre intervention était fort, fort opportune. Merci beaucoup, Pierre.
Attendez, je voudrais aussi ajouter un petit clin d'œil à une personne qui faisait partie des témoins du documentaire, le reportage de Zone Interdite. Je voudrais saluer Olivier Paolini, qui a vécu une fâcheuse expérience dans l'IME des Hirondelles à Narbonne et qui aujourd'hui est devenu lanceur d'alerte à cause de la mauvaise relation avec le directeur. Et pour en savoir plus, vous verrez les images par vous-même. Disponible en replay sur M6 et croyez-moi, c'est pas beau à voir.
Le message est passé, Pierre. Merci beaucoup de votre intervention, Pierre, et n'hésitez pas à revenir vers nous. J'espère que cela va susciter peut-être des interrogations, des relais auprès de notre ministère de la Santé. Merci, Pierre, pour votre appel.
Merci à vous, au revoir.
À bientôt.